Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
S'il est une région du monde dont on entend largement parler dans l'actualité, c'est bien le Moyen-Orient. Guerre en Syrie, conflit israélo-palestinien, guerre au Yémen. Le Moyen-Orient semble aujourd'hui concentrer l'essentiel des guerres actuelles, mais aussi des inquiétudes liées au terrorisme islamiste. Un imbroglio bien difficile à démêler pour tout à chacun. Alors pour nous y aider à y voir clair et à comprendre les causes sous-jacentes à tous ces conflits, je vous propose une émission à mi-chemin entre l'histoire religieuse et la géopolitique. Une émission exigeante, mais je l'espère, éclairante. Religion et crise au Moyen-Orient, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Avec comme invité Jean-Jacques Rouchy, vous êtes prêtre et délégué épiscopal chargé des relations avec l'islam et des relations interreligieuses pour le diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait un détour par nos studios. Vous allez donner une conférence le 20 février prochain sur ce thème, cause historico-religieuse des mutations actuelles de la crise proche-orientale. Je le répète parce que c'est compliqué. Cause historico-religieuse des mutations actuelles de la crise proche-orientale. Ça sera donc à l'Institut catholique de Toulouse et c'est organisé par les amis de l'Institut catholique de Toulouse.
Jeudi 20 février à 16h30.
Voilà, on redonnera exactement toutes les informations pratiques à la fin de chaque partie et à la fin de l'émission. Alors on va donc aller au Moyen-Orient avec vous et on va voyager à travers l'histoire. Je compte sur vous, Père Jean-Jacques Rouchy, malgré votre érudition, pour ne pas nous perdre, pas perdre trop de monde en cours de route et pour essayer donc de faire en sorte qu'on marche à peu près main dans la main dans cette émission. On va commencer par une actualité, c'est le plan de paix de Trump qui a été présenté donc en janvier dernier. Le 28 janvier exactement, il appelle ça Donald Trump le deal du siècle. Ce plan de paix prévoit la création d'un État palestinien dont Jérusalem-Est serait la capitale, mais fait la part belle aux exigences israéliennes. Pour commencer, est-ce que vous auriez un commentaire sur ce deal du siècle qui a fait un peu flop auprès de la Ligue arabe et des soutiens attendus par l'administration américaine?
Voilà, alors ce sont surtout les Palestiniens, évidemment, qui refusent ce plan parce qu'il restreint de façon terrible le territoire qu'il leur reste. À partir de 1947, donc il y avait à peu près 40% du territoire général qui était aux Palestiniens, et là ils se retrouvent avec moins de la moitié, avec un tunnel de 30 km pour faire la continuité territoriale avec la bande de Gaza. Donc pour les Palestiniens c'est absolument inacceptable, d'autant plus qu'ils revendiquent, on essaiera de voir pourquoi, la totalité de Jérusalem, au moins la partie qui leur avait été attribuée en 1947 par l'ONU. Et les pays arabes, donc, au début, n'ont pas tellement réagi, surtout ceux qui étaient les alliés des États-Unis. Ils ont quand même été un peu obligés, au moins au point de vue d'une déclaration, de s'opposer à ce plan, tellement il réduit la part des Palestiniens.
Alors il y a d'autres actualités, on pourra en citer bien d'autres, hein. Vous le faites vous-même pour dire en écho à mon introduction combien l'actualité se concentre autour de cette zone. Évidemment la montée en puissance des pétromonarchies, comme on dit, au long de ces dernières années, la présence de la Russie donc aux côtés de la Syrie, ça tout le monde a bien suivi ça, et puis les suites des attentats que l'on connaît. Il y a une autre actualité aussi dont on pourrait parler, c'est que depuis le retrait donc américain de l'Irak, les choses sont toujours aussi compliquées. Il y a eu de grandes manifestations de rue demandant le départ d'un premier ministre donc appelé Adel Abdel Mehdi. Il est toujours, enfin entre guillemets, en poste, toujours premier ministre. On en a nommé un autre, Mohamed Alaoui, mais la rue n'est pas contente. Loin s'en faut. Donc surtout les jeunes. Là aussi, vous avez un commentaire sur cette actualité.
Alors, la situation en Irak est catastrophique depuis que les Américains sont arrivés et surtout ils ont enlevé, si l'on peut dire, Saddam Hussein. Alors l'Irak est un état compliqué où le parti Baath, donc, qui a été créé au moment de la chute dans les années 50 des monarchies qui étaient à Damas et à Bagdad. Donc, ils ont été remplacés par un régime républicain avec ce parti basque, qui est un parti laïque. Et donc, Saddam Hussein a pris le pouvoir avec l'aide de minorités, en particulier de minorités chrétiennes, et cette minorité a imposé aux sunnites et aux chiites de ne plus se battre entre eux. Donc on a atteint un fragile équilibre qui était également en vigueur en Syrie. Et lorsque Saddam Hussein et les partis minoritaires qui le soutenaient ont perdu le pouvoir, la lutte millénaire entre sunnites et chiites a repris. Et c'est ce qui explique la prise de pouvoir de Daesh. Parce que Daesh, donc, va... lorsque le Saddam Hussein est parti, les chiites... d'une certaine manière, ont pris le pouvoir.
Alors, chiites, sunnites, donc c'est deux...
sont deux dénominations, voilà. deux divisions qui remontent à
deux grandes familles dans l'islam,
de l'islam.
On y reviendra plus tard.
L'histoire islamique. Et donc, ils se sont surtout concentrés, leur histoire s'est concentrée en Iran. Donc, l'Iran est un État très majoritairement chiite. Mais il reste surtout en Irak, et en Syrie, de fortes minorités chiites.
Alors, revenez-en à Daesh, donc, du coup, en quoi Daesh est la conséquence donc, de cette déliquescence de
lorsque les chiites, après la chute de Saddam Hussein, sont devenus trop oppressifs au regard des sunnites, ils ont accueilli assez favorablement Daesh. Daesh qui est sunnite. Et donc, cela explique pourquoi beaucoup de régions, tout le nord de l'Irak en particulier, pour résister à l'expansion chiite depuis toujours, ont soutenu Daesh. Alors, il a fallu que les Kurdes interviennent pour soutenir au sol les coalitions dont on a mis plusieurs années à se débarrasser de Daesh, et encore, c'est pas achevé. Alors en Syrie, il reste toujours le régime originaire d'Assad qui est en train de reconquérir tout son pays. Et on a le même schéma, une minorité autour des Alaouites qui sont un sous-produit, si l'on peut dire, du chiisme, avec aussi une minorité chrétienne, et Assad est en train de reconquérir tout son pays avec l'aide de la Russie, on en parlera.
Et qui tiennent le pays comme Saddam Hussein donné avant l'Irak.
Parce qu'il y a des dictateurs qui assurent la paix.
D'une main de fer.
Et lorsque ces dictateurs sautent, eh bien, les guerres intérieures reprennent.
Alors, toutes ces actualités, donc, on les suit, même si on les peut-être comprend pas avec la même finesse que vous les déployez. Ça a des répercussions en France aussi, ça vous tenait à dire ça en introduction de l'émission. Les répercussions, c'est entre autres donc, la présence de la France au Sahel. Hein. On se déplace un petit peu. La France qui va passer de 4500 à 5100 hommes qui combat là-bas donc le terrorisme islamiste. Une autre réalité sur laquelle vous vouliez nous alerter, j'avoue que j'étais un peu surpris par le chiffre que vous donnez. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a un repli identitaire d'un tiers des musulmans de France.
Jeunes. 30% des jeunes.
Avec de nombreuses zones de non-droit, c'est ça ?
Voilà. Alors, bon... c'est un terme un peu générique, il faudrait regarder avec précision où, de quoi il s'agit et quel est l'impact réel qu'il n'y a pas une prise de pouvoir massive dans tous les quartiers de façon égale, mais il y a une influence plus ou moins grande qui se manifeste en particulier par des actes antisémites.
Alors donc, parlez-en un petit peu, voilà, au regard de ce qui se passe par exemple à Toulouse ou dans notre région.
Pour les juifs, qui voient d'ailleurs c'est surtout les chrétiens qui sont l'objet d'actes antireligieux et d'atteintes en particulier au bâtiment, mais les juifs nous signalent qu'ils sont de plus en plus la cible d'un nouvel antisémitisme qui s'ajoute aux antisémitismes historiques sur lesquels on n'a pas le temps de revenir, c'est celui d'attitudes hostiles, de crachats, d'insultes, dont les juifs, en particulier ceux qui sont le plus visibles dans le judaïsme, c'est-à-dire les rabbins, et les enfants aussi, dans les écoles publiques et dans le sport, enfin dans beaucoup de lieux, parce que ces jeunes musulmans se sentent obligés pour soutenir leurs frères palestiniens opprimés par des juifs dans leur imaginaire, pour s'en prendre à leurs concitoyens français, alors que les Français ne sont pour rien.
Est-ce que vous avez des exemples quand vous dites que donc un tiers des jeunes musulmans en France sont dans un repli identitaire et qu'il y a des zones de non-droit? Est-ce que ça concerne aussi Toulouse, par exemple, ou
alors,
notre
oui,
région?
Malheureusement, l'affaire Mehran en 2012 l'a illustré. Il y a certains quartiers, effectivement, où la présence musulmane est forte et où on sent une influence islamique de plus en plus forte, là aussi, par les vêtements, par une fréquentation des mosquées, et aussi on observe bien sûr les fameux départs en Syrie et donc l'attrait d'un islam violent et du terrorisme. C'est le même que nous allons combattre au Sahel. Si vous voulez, il faut pas, malgré la dispersion géographique du phénomène, on est toujours dans la même ligne. C'est-à-dire qu'il y a un durcissement de l'islam qui a profité du vide créé par l'intervention américaine en Orient. Donc ça a permis l'émergence de ce fameux califat de Daesh, dont l'État islamique en Syrie et en Orient, et qui renoue avec cet imaginaire d'un empire islamique pur et dur qui va reprendre la conquête et qui va donner la domination du monde à l'islam. Et donc lorsque Daesh a été obligé de perdre ses territoires par l'action de la coalition occidentale en Irak et en Syrie, ils se sont repliés ailleurs, et en particulier au Sahel. Et donc c'est pour éviter qu'il y ait des attentats sur notre sol que nous sommes allés dans l'œil du cyclone, là où il est actuellement. Alors on continue d'être un peu présent avec des conseillers militaires, c'est tout à fait discret, mais enfin c'est efficace, en Syrie. Et on va aider les populations, en particulier du Mali, à ne pas tomber sous l'emprise des terroristes et des djihadistes, pour avoir un autre État comme Daesh, mais en Afrique. Et en Libye aussi, il y a un certain nombre d'anciens de Daesh qui sont implantés et qui veulent aussi essayer de reprendre un territoire. Et c'est pour ça qu'il y a la lutte entre les deux parties, dont le maréchal Haftar, qui est à Benghazi, et le reste de la Libye, qui est de l'autre côté.
Vous, à propos donc de la lecture des événements donc au Moyen-Orient, vous avez donc vous deux convictions. Probablement vous n'êtes pas le seul à avoir cette conviction. Vous dites qu'on fait deux grandes erreurs, que, à votre sens, les politiques occidentales font deux grandes erreurs quand ils se projettent, quand ils envisagent cette région du monde. Alors quelles sont-elles, ces deux grandes erreurs?
Tout à fait.
Et on fera une première pause.
Première erreur, c'est de considérer que le facteur religieux n'a pas d'importance. C'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle, on considère que la religion, c'est la superstition, et donc c'est quelque chose qui devait disparaître devant l'avancée de la science. Et donc finalement, ce qui est religieux, ben, c'est pas très important. Alors que c'est le cœur. C'est ce qui explique les causes historiques et religieuses de la situation. On l'a vu avec sunnisme, chiisme, etc. Et ça a un impact très fort que les chancelleries occidentales ne comprennent pas, parce qu'elles fonctionnent sur un schéma du monde qui fonctionne sur l'économie et la politique. Et donc, il y a autre chose que l'économie, la politique et la démographie.
Alors, on y reviendra dans la deuxième partie.
Voilà. Et deuxième
l'autre
erreur,
grande erreur, c'est qu'on a une vision de l'État qui n'est
tout
pas...
Tout à fait. Lorsque l'Empire ottoman s'est effondré, les Occidentaux, avec la SDN, d'abord la Société des Nations, et puis l'ONU, ont imposé, en particulier au Proche-Orient, des États de type occidental, des États-nations, qui n'ont jamais existé dans cette région du monde. Et donc, on se sent d'abord sunnite ou chiite avant d'être syrien, irakien. Non. Ce sont des nationalismes un peu artificiels qui recouvrent en fait les vieilles obédiences, c'est-à-dire à quelle appartenance est-on affilié en premier, d'abord religieux. Et donc le facteur politique est un petit peu artificiel et tout à fait récent.
Vous dites qu'en général, on réfléchit en termes d'empire dans
voilà.
ces régions.
Alors ces régions, et même d'ailleurs, la paix était assurée par des grands ensembles. En particulier, l'Empire romain donc imposait la loi romaine partout, et donc les tribus gauloises ne se battaient plus. Et lorsque Mohammed a créé l'État islamique, enfin l'État musulman, ne confondons pas, cet État musulman s'est répandu et donc les tribus ne se sont plus battues entre elles parce qu'elles étaient toutes musulmanes. Et lorsque les empires successifs, on va en parler tout à l'heure, hein, Omeyyades, Abbasides et Ottomans ont pris la suite de cet État musulman, eh bien là aussi les parties de cet empire ne se battaient plus entre elles. Et il y avait, de même qu'il y avait la loi romaine et la paix romaine, il y a eu la loi musulmane, si l'on veut, et la paix avec un traitement des minorités, bon, qui était plus ou moins bon, mais enfin qui était acceptable partout. Donc ça garantissait la paix, ça garantissait la circulation des biens sans problème et la circulation aussi des idées et des cultures.
On va faire une première pause, Père Jacques Rouchy, et puis dans la deuxième partie, on va voyager un peu dans l'histoire des Hébreux aux Ottomans. On s'était dit, donc ça peut paraître vaste, mais on va s'arrêter donc sur la conquête par les Hébreux donc d'Israël, sur la période romaine et sur les périodes de conquête musulmane. Ces trois temps, on verra quelles conclusions géopolitiques on peut en tirer pour les situations actuelles et les choses qu'on peut lire dans les journaux. Et à la fin de l'émission, on parlera donc davantage de choses plus contemporaines, l'alliance des États-Unis avec l'Arabie Saoudite et maintenant la présence grandissante de la Russie dans cette région du monde. Je rappelle, votre conférence, c'est donc le 20 février à 16h30. Son thème, cause historico-religieuse des mutations actuelles de la crise proche-orientale, organisée donc par les amis de l'ICT à l'Institut catholique de Toulouse.
Emmanuel Pella.
Religion et crise au Moyen-Orient, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Jean-Jacques Rouchy, prêtre délégué épiscopal, chargé des relations avec l'islam et des relations interreligieuses pour le diocèse de Toulouse. Mais ce n'est pas parce qu'il est du diocèse de Toulouse que les sujets dont on parle ne concernent pas tout à chacun dans la région. Dans cette deuxième partie, donc, comme promis, on va s'arrêter donc sur trois grandes époques. La conquête des Hébreux, d'Israël, la période romaine et puis la période des conquêtes musulmanes, et puis on essaiera d'en tirer des conclusions on va dire qui parlent de l'actualité pour éclairer ce qu'on peut lire dans les journaux ou voir à la télé tout simplement. Vous vouliez commencer par une question, alors c'est une question bien difficile, mais elle peut introduire le dégagement historique que vous allez nous faire. C'est à qui appartient la Terre Sainte?
Voilà. Alors, c'est la question qui empoisonne, depuis pratiquement la création de l'État d'Israël, toutes les relations internationales. Et en particulier, on parlait tout à l'heure de la politique de Trump. Il faut savoir que Trump soutient beaucoup l'État d'Israël et son régime. Trump a déplacé l'ambassade des États-Unis, qui était à Tel Aviv, comme toutes les autres ambassades, sauf quelques pays inférieurs aux États-Unis, à Jérusalem. Parce qu'il a des électeurs, 80% des chrétiens évangéliques aux États-Unis votent pour lui, et il considère, donc ces évangéliques-là, que la restauration de l'État d'Israël est l'un des signes de la fin des temps.
Alors juste les évangéliques, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc
ce sont des protestants. Qui ont pris la suite des protestants historiques, en gros luthériens réformés, et qui ont, disons, une liturgie un peu plus exubérante.
Qu'est-ce que c'est que cette vision millénariste? Alors quelle est leur conviction profonde?
Ça veut dire que pour eux, le fait qu'Israël soit revenu sur sa terre, même si... Il faut se poser la question de savoir si les Israéliens actuels, quel est leur rapport avec les Hébreux de la Bible. Il ne faut peut-être pas faire l'amalgame tout de suite. Mais aux yeux de ces évangéliques, donc, le retour d'Israël sur sa terre est l'un des signes de la fin des temps et du retour du Messie. Donc, il faut soutenir l'État d'Israël et, bien sûr, l'appartenance de toute la Terre Sainte et d'abord de Jérusalem aux Juifs. Donc, c'est un facteur essentiel dans les élections de Trump.
Et qui explique donc la position de Donald Trump et son plan de paix.
La question que vous posez...
Alors, si on refait un peu d'histoire, vous nous rappelez que l'exode et la conquête d'Israël par les Hébreux remontent à loin, et que pendant longtemps, les Hébreux ont passé bien du temps sur cette terre, puisqu'il faut remonter à peu près un peu plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Redites-nous un peu
Très rapidement, la présence d'un peuple qui s'appelle Israël dans cette terre remonterait donc au personnage d'Abraham, que l'on situe, alors là, bon, c'est toujours un petit peu contesté, vers 1750 avant le Christ. Donc, Abraham part d'Irak, il migre sur ce qu'on appelle le croissant fertile jusqu'au delta du Nil, et après lui, donc Isaac, Jacob, il y a une fédération de tribus qui commence donc vers le 18e siècle avant le Christ. Et qui
c'est déjà les fameux 12 tribus d'Israël?
Alors voilà, les 12 tribus d'Israël qui sont les 12 fils de Jacob. Donc il y a
D'accord.
Abraham, Isaac, Jacob. Et donc ces 12 tribus, les 12 ancêtres et leurs familles passent donc un certain nombre de siècles en Égypte, de 2,5 ou 4 selon les interprétations, et sous la conduite de Moïse en 1250, ils traversent donc le Sinaï, d'où l'exode et l'expression traversée du désert, et sous la conduite de Josué, ils vont conquérir la Terre Sainte. Donc les Hébreux sont eux aussi des conquérants. Il y avait des peuplades que l'on appelle génériquement cananéennes qui étaient déjà là parce que c'est le lieu de passage du grand commerce international de l'époque. Et donc en échangeant des marchandises, on échange aussi des idées, et c'est là que sont nées les trois religions monothéistes. Donc il y a conquête violente, mais vue comme un don de la terre de la part de Dieu. Et on verra...
Conquête de Jérusalem aussi, donc.
Alors, Jérusalem a été conquis après, plus tard, par David, en l'an 1000. Mais donc, les 12 tribus vont se répartir des territoires, dont certains sont de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie. D'où les ultras d'Israël aujourd'hui qui voudraient reconstituer l'ensemble de la Terre Sainte conquise sous Josué.
Alors,
l'idée essentielle, c'est que va s'ancrer dans les consciences et la sensibilité que cette terre a été donnée par Dieu à ce peuple-là. Et on va retrouver ça aussi pour les musulmans bien des siècles plus tard.
Vous allez y revenir parce que vous allez nous parler de ce que l'on dit dans la Pâque juive depuis bien longtemps. Alors juste, on peut rappeler deux dates importantes. C'est donc aussi la chute de Jérusalem, c'était en 587 avant Jésus-Christ. À ce moment-là, donc, le peuple hébreu a été déporté à Babylone. Et puis après, sont arrivés les Perses. Vous me disiez que depuis 175 après Jésus-Christ...
137,
pardon, après Jésus-Christ. Oui, je m'y perds. 133 après Jésus-Christ jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948. On se disait donc à Pâques.
Voilà.
Que se
Alors,
disait-on ?
Vous avez cité l'exil et c'est très important parce que cette terre va être d'autant plus chère qu'elle a été perdue déjà. Donc de 596 à 538, c'est l'exil à Babylone. Et on a dans les psaumes en particulier à la fois la désolation d'Israël dans le psaume 136 et la joie d'Israël quand il revient sur sa terre. Donc elle est d'autant plus chère qu'elle a déjà été perdue. Et donc en 137, les Romains vont conquérir Jérusalem avec donc Hadrien. Il va y avoir interdiction d'une présence juive dans Jérusalem.
Donc, ça va durer quelques siècles. Après Jésus-Christ.
137 après Jésus-Christ. Et depuis, donc de 137 après Jésus-Christ jusqu'en 1948 après Jésus-Christ, à chaque repas pascal, à la fin du repas pascal, les Juifs disent l'année prochaine à Jérusalem. Donc quand on a attendu pendant 18 siècles de revenir à Jérusalem, on comprend que dans l'imaginaire, la sensibilité et même quelque part la foi, cette terre qui a été donnée, qui a été conquise, qui a été perdue, dont on a été privé pendant 18 siècles, elle est indissolublement liée à ce peuple. Donc on n'est pas seulement dans le rationnel, là. Et donc les dispositions de l'ONU en 1948, ça pèse très peu par rapport à ce long imaginaire et à cette histoire qui est ancrée sur cette terre avec tous les épisodes de ce que nous appelons l'Ancien Testament.
Selon imaginaire, et puis cette certitude d'une alliance et d'un don qui a aussi été fait par Dieu.
De ce qui fonde le comportement des gens.
Alors, deuxième point, vous allez vous arrêter donc sur la période romaine, puisque l'Empire romain donc, a été présent, on le lit dans les évangiles, évidemment, on le redit, on l'entend parfois, Jésus a grandi sous occupation.
En effet.
Et donc, avec ce grand empire qu'on appelait l'Empire byzantin. Parlez-nous de cette période pour commencer. Rappelez-nous les grandes dates, qu'il faut avoir en tête avant d'en faire le dégagement historique, conclusion géopolitique pour aujourd'hui.
Cette période est essentielle parce qu'elle va ancrer cette partie du monde dans l'Occident. Et va commencer donc à tisser les liens qui sont encore en vigueur aujourd'hui et qui sont l'un des paramètres de la situation. Donc,
De quand date cette conquête ?
Il y a d'abord l'Empire d'Alexandre, donc, qui remonte au IIIe siècle, avec l'invasion donc, d'abord d'un empire grec qui va se terminer par les Séleucides.
Alexandre le Grand.
Alexandre le Grand. Et à partir des années 30, avant le Christ, l'Empire romain, donc, va vaincre les Lagides en Égypte, dont l'Égypte va entrer dans l'Empire romain, et puis tout le littoral, qui est évidemment essentiel pour les communications et pour le commerce. Donc, à partir, en gros, de 30, la bataille d'Actium, 30 avant le Christ, jusqu'à la conquête arabe en 638, on va avoir 6 siècles.
Donc 30 avant Jésus-Christ, 638 après Jésus-Christ.
Après Jésus-Christ, voilà. De présence romaine. Et ce sont les Romains qui vont utiliser le terme Palestine pour définir de leur circonscription administrative dans cette terre.
C'est du coup ce qu'on lit dans l'Évangile.
N'a rien à voir avec les Arabes qui ne sont pas encore là. Et est en fait la latinisation de Philistine. Donc Philistine, les Philistins sont le nom d'une partie des peuples qui ont envahi toute cette partie de la Méditerranée à partir du 16e, 14e siècle avant le Christ et qu'on retrouve en Grèce d'ailleurs avec le mythe de la guerre de Troie. Ce sont ces mêmes envahisseurs.
Alors nous perdez pas trop. En tout cas, il y a eu nombreux envahisseurs, donc les Philistins,
les
il y a eu les Babyloniens, les Perses et donc les Romains.
Une partie de la région Palestine et c'est la première fois qu'on voit émerger ce nom dans l'histoire et ça n'a rien à voir avec l'histoire islamique.
Alors pourquoi est-ce qu'il est important de reparler de cette période romaine et en fait de cette présence occidentale donc vous l'avez rappelé, hein, c'est 30 avant Jésus-Christ jusqu'aux conquêtes musulmanes,
jusqu'à la conquête arabe. Alors il faut ajouter un paramètre essentiel qui rattache l'intérêt occidental à cette région, ce sont les pèlerinages. Pas oublier que, en plus d'être le pays de la Bible, donc pendant 18 siècles, de 1750 au Christ, cette région est le lieu de naissance du christianisme. Le Christ est né à Bethléem, il a eu son ministère en Galilée, à Nazareth, il est mort et ressuscité à Jérusalem. Et donc, très tôt, et surtout à partir du 3e, 4e siècle, on a les fameux pèlerinages en Terre Sainte, qui ancre encore plus dans la sensibilité, l'imaginaire et la foi occidentale, cette région comme étant le lieu de naissance du christianisme.
Alors, on aurait pu parler des croisades, mais ça, on va s'y perdre dans les dates. Mais juste, Jean-Jacques Rouchy, quelle est la conclusion, on va dire, géopolitique qu'on peut tirer de ce dégagement donc, sur la période de l'Empire romain, de l'Empire byzantin, pour aujourd'hui ?
Alors, c'est surtout l'ancrage de cette région du monde en tant que lieu d'émergence de la foi essentielle pour l'Occident, qui est le christianisme. Et puis, le fait que cette région, lorsque la conquête arabe se produira en 638, va être ressentie comme une amputation. L'Occident va se sentir amputé des lieux où il est né, c'est-à-dire la civilisation égyptienne qui va tomber aux mains des musulmans, c'est-à-dire tout le monde de la Bible qui va tomber aux mains des musulmans, et c'est-à-dire surtout le lieu de naissance du christianisme, et le fait que les pèlerinages qui étaient essentiels au temps où la confession des péchés n'existait pas comme elle existe aujourd'hui, il était essentiel de pouvoir avoir accès au pèlerinage pour que les grands pécheurs puissent être pardonnés. Et donc le fait de ne plus pouvoir faire le pèlerinage en Terre Sainte a motivé les croisades.
Alors si on s'arrête, on comprend que les Juifs ont une très longue histoire donc, avec cette partie du monde, hein, vous l'avez rappelé. Il y a quand même de nombreux siècles de présence et après de nombreux siècles à espérer voilà. Donc, un retour à Jérusalem. Une présence occidentale donc, qui remonte à loin, et puis l'Occident y voit aussi quelque part dans cette région du monde ses racines. Si on rentre dans le troisième grand temps qu'on voulait évoquer, c'est donc la période de la conquête musulmane, la conquête arabe, ça commence en 638, et puis après ça se prolonge avec l'Empire ottoman. Redites-nous les grandes dates qu'il faut avoir en tête.
Très rapidement, en 638, sous le calife Omar, on va conquérir Jérusalem, et puis on va arriver jusqu'en Afghanistan après, et cette région du monde, jusqu'à l'arrivée des croisés en 1099, va faire partie des empires musulmans, capitale Damas, l'Empire Omeyyade, jusqu'en 750, et l'Empire Abbaside, capitale Bagdad. Voilà. Et donc, en 1080, la présence musulmane va imposer donc la paix, mais va d'une certaine manière couper ce cordon ombilical dont on parlait tout à l'heure, avec une partie du monde romain et surtout le début de la civilisation. Parce que la présence musulmane va aussi grignoter sur l'Empire byzantin. Alors il faudra attendre 1453, mais l'Empire byzantin à cette époque était réduit à Constantinople. Et donc toute ce qu'on appelle la Grande Grèce, la conquête musulmane va aussi recouvrer les début de notre culture grecque. Milet, Éphèse, toute cette partie de la Turquie.
Donc en tout cas, la présence musulmane, donc 638, il y a la parenthèse, on va dire, des croisades, 1099-1303, voilà. Et après, donc, parlez-nous aussi rapidement de la conquête ottomane.
La présence musulmane va rester donc, jusqu'aujourd'hui, d'une certaine manière. Donc, il va y avoir la rupture de la possession politique et militaire de la Terre Sainte avec les croisades, donc de 1099 jusqu'en 1303, où le dernier templier britannique va quitter Tripoli, enfin un îlot avant Tripoli.
Puis la période ottomane, rappelez-nous les grandes dates.
Voilà, les Ottomans, alors il y a d'abord les Turcs Seldjoukides que nous avons combattus au moment des croisades, et puis Saladin, qui est un Kurde, va donc ramener cette terre dans l'Empire musulman, et elle va y rester pratiquement vers l'Empire ottoman. Commence, bon, il y a aussi les Mamelouks, peu importe, et l'Empire ottoman va commencer en 1516 avec Soleiman le Magnifique, et les remparts que l'on voit actuellement à Jérusalem sont un peu restaurés, mais ont été construits par Soleiman le Magnifique.
Alors, même question, Jean Lacrouchy, cette longue présence musulmane, donc on l'a compris, donc 638 jusqu'à 1099, même s'il y a une parenthèse avec la période donc des croisades, 1099-1303.
En gros, 1281, toute la Terre Sainte est pratiquement reconquise.
Ça fait quand même bien des siècles, 638 jusqu'à la période ottomane. Là aussi, quelle conclusion on peut en tirer pour aujourd'hui ? C'est-à-dire la même que les précédentes, c'est-à-dire que les musulmans se sentent chez eux, tout simplement ?
Tout à fait. Alors, il faut ajouter le fait que les États occidentaux vont profiter de la relative faiblesse du régime ottoman pour, sous prétexte de protéger les chrétiens orientaux, intervenir aussi dans la politique, l'économie et les relations avec ces régions. Donc Saint-Louis en 1270, enfin qui est mort en 1270, va rencontrer les Maronites et au Liban, et depuis il y a un lien très fort qui va se concrétiser par le fait que lorsque l'ONU va confier le mandat sur la Syrie, les Français vont provoquer la création de l'État libanais.
Mais alors, ne perdez pas trop Jean-Jacques Rouchy, parce que ça...
Donc, les Russes aussi...
Ça, on en revient... Attendez, juste Jean-Jacques Rouchy. Là, on en revient à la présence occidentale dans la région. Ma question, avant qu'on fasse une deuxième pause, c'est que vous nous avez dit qu'il y a une longue présence musulmane. C'est pareil, je repose ma question. Quelle est la conclusion, on va dire, géopolitique actuelle qu'on peut en tirer ? En quoi de rappeler cette longue présence musulmane peut nous éclairer sur ce qu'on lit dans les journaux ?
Alors, cette présence musulmane va être en quelque sorte mitée, c'est ce que je vous explique, par la présence d'un certain nombre d'auteurs occidentaux qui vont protéger les minorités chrétiennes. Et donc, il y aura, si vous voulez, une présence culturelle, une présence un peu militaire aussi, dans ces régions qui va exploser, si l'on peut dire, après la fin de l'Empire ottoman pour imposer les États actuels. Alors, l'Empire ottoman va permettre, avec des hauts et des bas, une certaine reconnaissance de citoyens de seconde zone pour les chrétiens qui restent majoritaires au moins jusqu'au XIVe siècle.
Mais là, je repose ma question, Jean Lacrouchy, ce qu'on a besoin de savoir avant de faire une deuxième
pause. L'Empire ottoman,
qu'est-ce que ça éclaire sur la situation actuelle de faire ce rappel historique ?
L'Empire ottoman était donc un empire. Et il va disparaître en 1924, et après la Deuxième Guerre mondiale, il va être dépecé par les Occidentaux sur la base de ces liens historiques dont nous venons de parler pour créer les États actuels de Syrie, Liban, Irak, Jordanie, et qui ne correspondent pas vraiment au génie de ces populations et à leur histoire. Donc c'est l'aboutissement d'un long processus qui remonte justement à la présence romaine et aux infiltrations, si l'on peut dire, politiques et religieuses des États occidentaux et qui vont petit à petit miner l'Empire ottoman. On pourrait en dire autant pour le Maghreb, puisque sauf le Maroc qui va prendre vraiment son autonomie, ces régions, donc à partir de l'Algérie, étaient aussi dans l'Empire ottoman.
Allez, on fait une deuxième pause et puis on vous retrouve. On va parler donc des liens entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, et puis de la présence russe. Vous nous allez nous rappeler, on va dire, les grandes réalités historiques et nous aider à comprendre ce qui se joue là-bas du côté du Moyen-Orient. Thank you.
Présence à Lannemezan, 92.2.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Religion et crise au Moyen-Orient, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Émission exigeante avec vous, Jean-Jacques Rouchy. Vous êtes prêtre délégué épiscopal chargé des relations avec l'islam et des relations interreligieuses pour le diocèse de Toulouse. Vous nous aidez à plonger dans toutes les strates de l'histoire. Voilà, Jérusalem et cette région, on a beau creuser, on en trouve des strates. On s'est dit donc, enfin, vous souhaitiez à la fin de cette émission donc parler un petit peu des États-Unis et de la Russie. On sait, même si on suit de long à l'actualité, que ce sont les deux grands acteurs locaux, en tout cas qui donnent l'impression de tirer bien des ficelles. La première chose qu'il faut dire et redire, c'est qu'il y a un axe extrêmement fort et puissant donc, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, deux régimes qui pourtant ne se ressemblent pas beaucoup. De quand date, Jean-Jacques Rouchy, cet accord où ils se sont tapés dans la main pour l'un soutenir militairement l'autre et l'autre approvisionner en pétrole le géant économique de ce monde?
L'Arabie Saoudite, comme son nom l'indique, est l'Arabie des Saouds. Les Saouds n'auraient pas dû avoir l'Arabie Saoudite. En 1917, à la fin de l'Empire ottoman, les Britanniques avaient promis à la dynastie Hachémite, donc qui est de la tribu de Mohammed, d'avoir de retrouver le monde arabe avant que les Turcs ne s'en emparent. Il impose donc ce fameux empire ottoman. Dans 1917, les Britanniques avaient promis à ces Hachémites d'avoir tout ce qui est actuellement l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Terre Sainte, puisque la Terre Sainte est chère aussi aux yeux des musulmans, à cause du voyage nocturne que le prophète aurait vécu.
Jean-Jacques Rouchy, juste, vous risquez de nous perdre, en tout cas moi vous me perdez un petit peu, est-ce que vous pouvez juste rester sur ma question? Cet accord États-Unis-Arabie Saoudite, de quand date-t-il?
Il date de 1946, lorsque justement cette promesse britannique a été contrebattue par la politique américaine dans la région. Et donc, les Hachémites ont été peu à peu dépossédés, ils n'ont plus que la Jordanie, et en 1946, donc, le président Roosevelt a débarqué en Arabie Saoudite et a fait une alliance d'État à État entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique qui continue donc pour évidemment que l'Aramco puisse continuer.
L'Aramco, c'est donc la grande compagnie pétrolière.
D'exploiter le pétrole.
Saoudien.
Donc, c'est une histoire économique et pétrolière.
10,5 donc, millions l'Arabie de barils Saoudite, de pétrole par jour.
Voilà. L'Arabie Saoudite va évoluer sous l'influence du wahhabisme, qui est donc la façon de vivre l'islam des Saouds. Et ce wahhabisme a donc, évidemment, étant un régime rigoriste et un régime extrêmement à cheval sur les Saoudiens vont se sentir des héritiers de ces empires historiques et ils vont donc vouloir, en particulier, reconquérir Jérusalem. Et c'est là qu'on va avoir un hiatus par la politique des États-Unis qui soutient Israël. Et donc, on note actuellement en Arabie Saoudite une évolution du régime avec le fameux prince héritier Mohammed Ben Salman qui a l'air de vouloir ouvrir le régime et qui surtout a réalisé que la présence des Israéliens dans la région pouvait être utile pour contrebalancer l'influence des chiites iraniens.
Est-ce que vous pouvez juste vous arrêter un petit peu plus sur le wahhabisme? Parce que tout le monde n'est pas allé en Arabie Saoudite.
Abdel Wahhab est un réformateur du XVIIIe siècle.
On sait que c'est un islam
conception
dur.
Conception de l'islam, c'est toujours l'idée, si vous voulez, que l'islam pur, c'est l'islam des origines. Et donc réformateur, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va apporter un certain changement, mais au contraire, essayer de réancrer la religion dans ce qu'elle était supposée avoir donné au temps du prophète de l'islam. Et donc, l'Arabie Saoudite va se présenter en champion d'un islam pur et dur, si l'on peut dire. Et au début, ils ont eu des relations avec Al-Qaïda et qu'ils ont vraiment soutenu. Alors, ils se sont rendus compte avec Daesh que finalement, le fait de soutenir ces ultras qui allaient beaucoup plus loin qu'eux, risquer de produire ce qui s'est produit avec Daesh, c'est-à-dire un État rival qui les dépossède de leur pouvoir. Et donc ils se sont rapprochés de l'Amérique, et pour des raisons sécuritaires, en particulier pour éviter l'influence chiite iranienne, c'est pour ça qu'ils se battent aussi au Yémen. Parce qu'au Yémen, il y a également des chiites.
En tout cas, ce qu'il faut comprendre à vous entendre, c'est que donc l'Arabie Saoudite se sent héritière donc d'un, on va dire, d'un islam des origines.
L'idée, c'est de reconstituer l'empire islamique des origines et, si possible, d'étendre l'islam. Et donc, il y a toujours cette idée de reconstituer et donc de reprendre Jérusalem, qui est donc la troisième ville sainte de l'islam.
Voilà, donc on comprend que les États-Unis sont pris dans une injonction contradictoire.
Voilà, entre l'alliance avec Israël, qui est d'autant plus, qui peut être intéressante, c'est pour ça que les Israéliens aident les Égyptiens à lutter contre Daesh dans le Sinaï, et il y a des accords plus ou moins secrets avec les Émirats, avec donc aussi le Bahreïn, qui dépendent de l'Arabie Saoudite, et donc pour finalement profiter de la présence israélienne pour contrebalancer l'influence iranienne. Et voilà. Ça nous ramène aussi à ce qui se passe en Syrie.
Alors juste, je vous propose, on va passer à la Russie. En tout cas, on comprend que les États-Unis sont pris dans cette injonction contradictoire. Parce que quand Donald Trump fait son premier voyage à l'extérieur des États-Unis pour aller en Arabie Saoudite, et donc que quelques années après son élection, il propose ce plan de paix pour le Proche-Orient, on voit bien qu'il y a là des choses qu'il faut tenir qui paraissent difficilement conciliables. Alors parlons un peu de la Russie. Vous vouliez finir là-dessus. La Russie, on en parle de plus en plus. Si vous nous aidez à faire un peu d'histoire, comme pour les autres points, depuis quand la Russie, s'intéresse à cette région du monde et essaye d'y avoir un pied ?
La politique des tsars suivie par les communistes est l'accès aux mers chaudes. Donc, on va retrouver la grande Catherine qui met sa flotte en Crimée, mais la Crimée, c'est dans la mer Noire. Et donc, ce n'est pas directement la Méditerranée. Donc, la politique russe, sous le prétexte sous le prétexte de soutenir les chrétiens de l'Empire ottoman, est déjà présente, en particulier à Jérusalem. Et au fur et à mesure, après la division du monde, après donc la Deuxième Guerre mondiale entre l'influence des États-Unis et l'influence de la Russie va poursuivre sa présence, et actuellement elle soutient le régime d'Assad pour pouvoir conserver sa base de Tartous, qui est sur le littoral syrien, dans la Méditerranée. Et donc elle va se retrouver en collusion avec l'Iran pour soutenir le régime d'Assad, et par rapport à la politique américaine, donc s'opposer au plan de paix. Alors il y a des liens aussi avec Israël, parce qu'il y a beaucoup d'immigrants juifs qui viennent de Russie, dont ce qu'on appelle les Ashkénazes, c'est-à-dire les juifs d'origine occidentale, jusqu'à Begin, ont exercé le pouvoir en Israël. Donc il y avait une certaine communauté, au moins culturelle, avec la Russie.
En tout cas, ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est que donc il y a des intérêts stratégiques pour la Russie et qui remontent à loin, mais qu'il y a aussi, pareil, du côté de la Russie, en fait, une forme de projection culturelle sur cette région du monde, parce qu'on y va pour protéger, on va dire, les racines chrétiennes.
Oui, effectivement, mais là, c'est surtout, si vous voulez, l'intérêt économique de la Russie d'avoir accès à la Méditerranée pour des raisons commerciales.
Mais en même temps, vous laissez entendre que tous les acteurs ont une lecture aussi qui va au-delà, justement, de ses intérêts politiques et économiques.
Tout à fait. Alors, il y a cet aspect de soutien, surtout avec le retour de la religion en Russie. Hein, il est évident que cette protection des chrétiens va être aussi dans le collimateur, si l'on peut dire, de Poutine.
Alors, à la fin de la conférence que vous allez donner, on en dévoile un peu la conclusion. Vous avez ce mot « insoluble ». C'est vrai qu'on peut s'arracher les cheveux à entendre tout ce que vous venez de nous dire, puisque plus on creuse ces développements, plus on voit, comme on le voit à Jérusalem, que chacun y a une part de lui-même, une part de ses racines culturelles et religieuses. Est-ce réellement insoluble ? Vous mettez en regard de ce mot insoluble à cause du pétrole saoudien.
Voilà, alors le pétrole saoudien génère beaucoup de pétrodollars, et donc le wahhabisme a un poids très fort, en particulier pour empêcher ce qui est à nos yeux l'évolution de l'islam. et en particulier la constitution d'un islam qui soit un peu adapté à la modernité. Et d'ailleurs, à l'intérieur du monde islamique, il y a des intellectuels qui essaient de faire, de provoquer cette évolution. Mais il est un peu freiné par le poids des pétrodollars saoudiens qui imposent partout des centres culturels, y compris d'ailleurs dans notre pays, et qui impose finalement une façon d'être islamique un petit peu rétrograde, si l'on peut dire, et surtout chez nous, qui contribue à empêcher la naissance d'un islam vraiment de France, avec en particulier, s'ajoute à cela, la politique des États maghrébins qui voudraient bien avoir en France ce qu'on appelle un islam consulaire, c'est-à-dire qui reste algérien, qui reste marocain. Voilà, donc il y a cette influence-là.
Si on en revient au tout début de l'émission, quand vous disiez qu'il y a deux grandes erreurs qui sont faites en parler politique occidentale, c'est donc de ne pas considérer le facteur religieux et puis d'avoir une conception de l'État qui est très, très occidentale. Juste, je finis ma question, je raccroche, excusez-moi. Sur l'aspect religieux, tous ces dégagements faits, si nos chancelleries occidentales, donc à vous entendre, avaient plus conscience de tous ces facteurs religieux, qu'est-ce qu'on ferait différemment ?
Mais on tiendrait compte de ce facteur dans les décisions que l'on prend, et qui ne doivent pas être seulement inspirées par des considérations politiques et économiques, et en particulier le fait de respecter les aspirations des populations et surtout le type d'État que nous avons imposé dans cette région et qui ne correspond pas au génie des peuples. Et
donc, est-ce que vous pourriez prendre un exemple plus précis dans ces cas-là
Syrie...
Qu'est-ce qu'on aurait fait différemment, par exemple, en Syrie, oui?
Mais au lieu de faire une Syrie, un Irak, un Liban, une Jordanie, il faut regarder la situation telle qu'elle est. Il y a deux grandes familles religieuses. Il y a celle qui est rattachée à l'Iran et qui est plutôt chiite, et celle qui est rattachée donc plutôt aux sunnites, avec l'Arabie saoudite qui se veut être un peu le parangon d'un sunnisme ancestral. Et il y a aussi bien sûr El-Azhar en Égypte qui peut présenter un sunnisme un peu plus ouvert, et puis ensuite celui du roi du Maroc, mais là on n'est plus au Proche-Orient. Donc on pourrait penser qu'au lieu d'imposer nos systèmes d'État avec une conception de la laïcité qui ne va pas du tout dans ces régions, donc laisser et inciter les peuples à faire des confédérations. Et on pourrait avoir une confédération à majorité sunnite, une confédération à majorité chiite, avec justement un arrangement à l'oriental pour que les minorités chiites dans l'ensemble sunnite et que les minorités sunnites dans l'ensemble chiite puissent malgré tout être respectées, et bien sûr avec le respect des minorités chrétiennes et bien sûr les nombreux juifs qui sont actuellement dans l'État d'Israël.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Jacques Rochy de nous avoir tiré vers le haut. Je rappelle, votre conférence est donc le 20 février prochain à 16h30, cause historico-religieuse des mutations actuelles de la crise proche-orientale. Ça sera, on va dire, une version plus développée, on aura plus de temps pour vous entendre et puis peut-être la possibilité de poser des questions à la fin. C'est organisé donc par les Amis de l'Institut catholique de Toulouse, et c'est donc à l'Institut catholique de Toulouse le 20 février, 16h30. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.